France Info.
A-t-il réussi cet exercice dont on disait hier qu'il était risqué, il était inédit et aussi très attendu? 2h30 de prise de parole du président de la République hier soir. On continue le débrief avec nos invités. Jackie Isabello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Vous étiez ici même hier avec nous, donc avant, après. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de la prestation du président de la République. Simon Le Baron du service politique de France Info. Bonjour Simon.
Bonjour.
Et Thomas Negarov, bonjour à vous.
Bonjour. Merci.
Historien de la rédaction, chercheur d'archives que nous allons découvrir ensemble. Alors, d'abord, après 3 mois de grands débats, après quasiment 6 mois de crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a-t-il changé, pour paraphraser l'un de ses prédécesseurs? Écoutez sa réponse hier soir.
Ce moment m'a transformé aussi. Je n'ai pas découvert notre pays lors de ce grand débat, mais je crois que j'ai touché beaucoup plus clairement l'épaisseur des vies. Et nous sommes un pays où on attend énormément du chef de l'État. Et parfois, je n'avais pas conscience de cette attente. Et cette attente, elle a justifié une certaine colère. Ce que je veux profondément faire dans le moment qui est le nôtre, c'est aussi pouvoir faire entendre aux Français que j'ai entendu plus que ça, compris, senti dans ma chair ce qu'ils vivent. Que je veux qu'on y apporte une réponse.
Jackie Isabello, qu'avez-vous pensé de ce registre présidentiel, le registre de l'humain ?
J'ai trouvé ça assez étonnant parce que les enquêtes ont montré que après le début de la crise, lorsque Emmanuel Macron était dans la contrition, son électorat n'aimait pas trop ça. Donc il a changé de méthode et à la fin du mois de décembre, rappelez-vous, il a décidé de réendosser le costume de l'autorité et son électorat apprécie ça. Et cette séquence « J'ai changé » qui est une espèce de séquence sarkozyste, hein, rappelez-vous de ce moment-là, oui. Eh bien elle aurait mérité d'y ajouter une « Je vous ai compris ». Donc s'il avait dit « Je vous ai compris », et c'est pour ça qu'il a organisé cet événement, parce qu'il y a la crise dans la rue, plus j'ai changé, eh bien sans doute aurions-nous eu un peu plus de réponses. Et c'est vrai qu'il manquait une jambe à cette espèce de construction ouais. rhétorique avec ce « J'ai changé seulement » et « Regardez, je vous ai un peu choqué ». On n'aime pas ça et son électorat n'aime pas ça quand Emmanuel Macron endosse ce costume.
Mais est-ce que vous entendez là de la sincérité ou alors est-ce que c'est un peu le passage obligé pour un président qui traverse une crise, surtout une crise de cette ampleur?
Très sincère. Quand il reconnaît avec Alexandre Benalla que voilà, il l'aurait embauché, il a voulu donner sa chance, mais eh bien, il l'a déçu. Très sincère aussi. Donc il y a eu des grands moments de sincérité et d'authenticité avec des silences qui étaient non fins. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on l'a tout changé. Mais encore une fois, pour être très cynique, hein, moi je suis pas homme politique, de dire l'homme politique, il est là pour quand même séduire son électorat et la manière dont la France est fracturée en ce moment, Emmanuel Macron, il faut qu'il les rapproche. Eh bien, quand il sort le costume de la contrition, son électorat n'aime pas trop ça. Il préfère son côté jupitérien et gaulliste.
Oui, sincère, mais pas forcément très efficace. Hein, c'est ça.
Pour son électorat.
Simon Le Baron.
Vous avez remarqué qu'une bonne partie des questions des journalistes hier, pendant cette conférence de presse, ont porté justement sur l'image du président de la République et sur ce registre intime. Que pense-t-il de l'opinion que les Français ont de lui? A-t-il évolué sur son image? Regrette-t-il ses petites phrases? Oui. Il y a une quinzaine de questions de journalistes. Je pense qu'un bon tiers au moins a porté sur ce registre-là. Alors, certains le regrettent. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu aller plus sur le fond et le détail des mesures. Après, ça, ce sont les ministres et le gouvernement qui vont détailler ces mesures vraiment dans leur mise en œuvre et dans leur application. Mais c'est vrai que ça note aussi finalement l'importance de l'image du président de la République et d'ailleurs qui avait travaillé à la mise en scène. Hein. Vous parliez d'aspect gaullien et hercine et il avait choisi Emmanuel Macron de se mettre derrière un bureau sur cette estrade comme le faisait le général de Gaulle ou Pompidou à l'époque, contrairement à François Hollande ou Sarkozy et Nicolas Sarkozy qui était derrière un pupitre.
Thomas Negarov.
Mais c'est pas que de la faute des journalistes qui ont posé les questions parce que moi, en suivant la conférence de presse, j'ai remarqué que dès que les questions étaient très techniques et très précises, là tout à coup, le Emmanuel Macron qui a réponse à tout depuis des mois et des mois, voire même maintenant des années, se retrancher derrière la posture du président de la République qui n'est là que pour donner des grandes directions et qui laisse le gouvernement dans le détail. Donc il y a eu un jeu effectivement beaucoup sur la psychologie, sur le personnage. Quand il parle de la chair, on est vraiment sur son corps et sur sa tête et sur son âme et sur ses états d'âme. Ouais. Mais il a aussi voulu placer le curseur à ce niveau-là. Ce n'est pas uniquement les questions des journalistes qui l'ont forcé à ça.
Jackie Isabello.
Hier, rappelez-vous, je vous ai dit 18h, c'est parce qu'il veut tenir le timing. Il va donner des choses et il ne voulait pas que les gens rentrent dans les détails, parce que quand on rentre dans les détails, un, c'est la politique du gouvernement, c'est le job du gouvernement, mais c'est aussi le risque de, eh bien, de communiquer sur des imprécisions. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de conserver ce timing-là essentiellement.
Alors, vous disiez justement hier à propos du timing qu'on allait voir si le président allait écraser les JT en quelque sorte ou pas. Bon, bah, il l'a fait finalement.
Pas TF1, puisqu'il a décroché justement. Ouais. Je me suis dit quand même que je sois à peu précis. Ils ont décroché à 19h59, mais France 2 a poursuivi l'ensemble de la séquence. Donc c'est vrai que l'information publique a tenu l'ensemble de la séquence. J'étais assez surpris, et sans doute qu'il aurait pris conseil de vous s'il vous avait entendu aujourd'hui. Il s'est arrêté au bout d'un moment, il s'est dit là, ça va déborder sur l'oiseau, on va me poser tout un tas d'autres questions et je vais polluer ma séquence. Après, si vous me permettez, il y a quand même un grand loupé dans cette séquence-là. Eh bien, on nous avait dit plus rien ne serait comme avant. Et pour que plus rien ne soit comme avant, il nous fallait l'effet waouh. Et cet effet waouh, ça aurait été un Emmanuel Macron, marketeur politique, qui vous dise, voilà, c'est 5 milliards en moins et c'est 15 millions de foyers qui sont concernés. Et ça, on ne l'a pas eu. Regardez la presse régionale. Vous la commentez le matin. Un tiers de la presse, c'est et la confiance, qu'est-ce qui se passe après, l'acte 2. Il y a uniquement la presse des bras qui dit moins d'impôts, mais qui donne pas de chiffres. Et ça, il l'a loupé. D'ailleurs, Bruno Le Maire, ce matin, a été obligé de donner le chiffre et de donner le chiffre des foyers qui seraient concernés. Il aurait dû nous laisser partir dans notre cabas avec ce chiffre-là pour que l'ensemble des commentateurs disent « Bon alors, 12 milliards d'un côté, plus 5 milliards, ça fait quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est intéressant ?»
Ça manquait de précision, en fait, c'est ça ?
Oui, l'effet waouh, ça aurait été ça. S'il remettait 5 millions, eh bien là, on se serait dit « Bon, on peut le critiquer sur plein de choses, mais cet effet waouh-là, parce que derrière, il y a eu d'autres mesures pour tout un tas d'autres publics. » Et vous avez vu, les commentaires sont dispersés. Il n'y a pas eu cet effet waouh. On nous l'avait promis, on ne nous l'a pas délivré.
Globalement, est-ce que vous diriez que cette conférence de presse a été très maîtrisée ? Dans le timing, dans les prises de parole, dans le décor, nous disait Simon Le Baron.
La forme, très très bien. Les références historiques dont Thomas parlait, évidemment, on peut en trouver tout un tas. Après, eh bien là, encore une fois, là où il a pêché, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas sorti de petites phrases, il a été impérial de ce point de vue-là. En revanche, il nous avait dit 20 minutes, et c'est un 20 minutes qui se transforme en une heure.
Pour
on a l'impression d'être dans le RERA le matin, vous voyez. Donc c'était beaucoup trop long, ce qui fait que les questions ont... Donc de ce point de vue-là, eh bien il a débordé, il a beaucoup philosophé, il a été quand même capable de nous citer le mot Ordali, hein, oui. Qui sait ce que ça veut dire le mot Ordali? On peut le dire aux Français. Voilà, c'est vous prenez une décision et vous la soumettez à la justice divine. On ne sort pas Ordali en conférence de presse. Donc, encore des petites imprécisions. Il a loupé son effet waouh. C'était sa mission essentielle. C'est un peu dommage.
Son effet waouh, ça, vous l'aimez bien celui-là. Vous nous disiez aussi qu'il fallait que le président
pas
donne
que moi.
Plus que ce que l'on savait déjà pour que ce rendez-vous soit une réussite. Alors, est-ce qu'il a donné plus? D'après vous.
Alors, là-dessus, vous l'avez vu, pas énormément, en fait. Toutes les annonces avaient été déjà éventées. On pourrait commenter que c'est un besoin de maîtriser la dépense fiscale. Après, ce qui aurait dû être vu comme étant plus, eh bien, on l'a mal perçu. Quand il dit, bon, allez, 120 000 emplois publics, je suis prêt à revenir là-dessus, ouais. c'est quand même une annonce énorme. Eh bien, on ne l'a pas commenté. Elle n'a pas été assez mise en perspective. Donc, vous voyez, à nouveau, je ne vais pas redire le terme, mais c'est vrai qu'on a loupé un peu ces annonces-là.
On reprend cette discussion dans une minute, après l'info, à 13h20, Diane Ferschit. Emmanuel Macron a-t-il réussi cet exercice inédit auquel il s'est livré hier soir, cette conférence de presse face à 300 journalistes? Nous sommes avec Jackie Isabello, qui est cofondateur de l'agence Coriolink, Simon Le Baron du service politique de France Info et Thomas Negaroff, historien de la rédaction. Il y a eu de vrais mea culpa hier soir du président sur l'attitude, les mots qu'il a pu employer précédemment, mais il reste quand même dans cette personnalisation. C'était le cas pendant la crise, c'est le cas pour les réponses, c'est toujours lui face aux Français.
Oui, c'est ce qui est remonté du grand débat aussi. Outre les vraies demandes en termes de pouvoir d'achat, davantage de justice fiscale, il y a aussi l'image, encore une fois, du président de la République qui est revenue beaucoup. C'est lui qui cristallise la colère qu'on entend depuis 5 mois. Donc forcément, c'est peut-être, certains diront, le défaut de la Ve République. On est dans un régime qui personnalise le pouvoir pouvoir. Donc forcément, on attendait aussi d'Emmanuel Macron qu'il nous dise ce qu'il a appris de ces 5 mois de contestation vis-à-vis de sa personne. Ouais. Et M. Isabello le disait tout à l'heure, il y avait la difficulté finalement d'être précis aussi sur des mesures. Et finalement, c'est ce qui a donné ce discours, cette intervention hybride entre à la fois la nécessité d'annoncer des mesures concrètes qui étaient attendues en premier lieu par les Français et en même temps la nécessité de parler de lui. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce discours un peu flou. En tout cas, c'est ce que vous avez trouvé.
Manque de hiérarchie. Vous le savez, dans vos métiers, c'est la hiérarchie de l'information, la fameuse pyramide. Il manquait un peu de cette pyramide. Après, sur la personnalisation, eh bien, Nicolas Sarkozy l'a mis en place et le quinquennat a accéléré cette personnalisation de la 5e. C'est à peu près le seul qui maîtrise cet aspect parce que voir sa courbe de popularité repartir en plein milieu de la crise des Gilets jaunes, eh bien, c'est le seul à pouvoir faire ça aujourd'hui, si on en croit ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Alors, un thème ultra traditionnel qui a été abordé hier soir par Emmanuel Macron, c'est le célèbre plein emploi. Oui. Thomas Snegaroff, le plein emploi. Alors là, d'ici 2025, mais en fait, tous les présidents quasiment ont promis le plein emploi.
Alors, il y a un côté très ancien monde dans le nouveau monde. Alors d'abord, la promesse, bien sûr, mais le plein emploi en tant que tel, c'est malheureusement, pour le coup, l'ancien monde. Écoutez cette archive, 1961. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Michel Debré, Premier ministre du Général de Gaulle.
J'ajouterai un fait que chacun constate, mais dont on parle peu. L'industrie ne connaît pratiquement pas de chômage. Nous sommes, comme on dit, en état de plein emploi.
Et on n'en parlait pas à l'époque, c'était pourtant la réalité, le plein emploi, pris dans son acception en plus la plus forte, à savoir un chômage uniquement frictionnel. Quand on est entre deux emplois, c'est le seul chômage, c'est 2,5% maximum, c'est ça le plein emploi officiellement, enfin en tout cas d'un point de vue, d'un point de vue strict. Alors après, effectivement, dans les années 70, la crise économique arrive et ça devient une promesse. Et là, un petit medley des anciens présidents français, Giscard, Chirac et Sarkozy.
Je suis convaincu qu'une politique de cette nature est celle qui peut assurer la croissance économique de la France et un emploi à chaque Français.
Pour que chaque Français ait demain une activité, il faut faire dès maintenant les réformes qui préparent l'avenir.
Je veux dire aux Français que le plein emploi, que connaissent tant d'autres pays à travers le monde, c'est possible. Pour peu qu'on vous laisse travailler.
C'est assez simple. Ouais, Nicolas Sarkozy, il suffit de travailler pour travailler. Alors, j'ai pas oublié François Mitterrand, mais lui, c'est à l'écrit. Hein, interview accordée à Jean Boissonnat pour l'expansion en novembre 84. Il déclare « J'ai choisi le seul chemin qui conduira au plein emploi dans une France. Enfin, à l'heure de son temps, c'est intéressant, la fin à l'heure de son temps, parce qu'à chaque fois, il y a l'idée qu'il y a une exception française du chômage et qu'il faudrait suivre les exemples ailleurs pour atteindre le même plein emploi. »
Et alors, François Hollande, lui, qui a voulu être plus modeste.
Oui, plus modeste avec la courbe du chômage. En revanche, dans les archives, j'ai trouvé une pépite. On est en 2013, séminaire du gouvernement, août 2013, rentrée. Et vous allez voir, 2025, on en parle déjà en 2013.
De courtes vacances pour le gouvernement et dès ce matin, tous les ministres avaient rendez-vous à l'Élysée pour imaginer la France de 2025. Une France de rêve, sortie de la crise et du chômage, comme la décrivait à son arrivée au séminaire le ministre de l'économie.
Moi je voudrais qu'on arrête d'avoir cette espèce de délectation morose ou d'autoflagellation française. Non, l'économie française est forte et le plein emploi est un objectif à 2025 qui me paraît non seulement mobilisateur mais réaliste.
Pierre Moscovici, vous voyez, 2013. On a commencé en disant Emmanuel Macron a beaucoup changé. En tout cas, là, il n'a pas tellement changé parce qu'en 2013, il était déjà là. Il était à l'Élysée comme conseiller économique du président de la République, François Hollande.
Jackie Isabello, voilà un thème permanent.
Alors, ce qui était étonnant, et Thomas Snegaroff a eu le terme des économistes, et il a parlé de chômage frictionnel. Moi, quand je faisais mes études d'éco, c'était 2,5 le chômage frictionnel. Il nous a quasiment dit qu'on était en plein emploi à 7,5-8. Comme s'il considérait, par exemple, que la catégorie des 4, dont on sait qu'elle est en plein emploi, eh ben, que ce serait l'indicateur sur lequel il pourrait être jugé. Donc là, il nous a un peu dit, je m'en fiche de 2022, mais les gars, si vous deviez me juger sur le chiffre de l'emploi, je suis quand même pas si mauvais.
Simon, le baron.
7,5%, ça tombe bien, c'est d'ailleurs l'objectif qu'il s'est fixé pour la fin du quinquennat. Donc, voilà, mais c'est vrai que Thomas parlait de la courbe du chômage de François Hollande qui a collé à François Hollande comme le sparadrap du capitaine Haddock. Là, Emmanuel Macron, on l'a vu, même s'il dit qu'il s'en fiche de la prochaine élection présidentielle, se projette déjà dans le prochain quinquennat, donc jusqu'en 2025. Ouais. Et cet objectif du plein emploi en 2025, qui paraît dans la conjoncture actuelle difficilement atteignable, pourrait être pour Emmanuel Macron, ce qu'a été la courbe du chômage pour François Hollande.
Thomas ?
avec l'astuce de proposer ça au-delà de la fin de son quinquennat. Forcément. Et c'était le problème de François Hollande. C'est quand même paradoxal. François Hollande a été peut-être le plus modeste dans son annonce, une simple inflexion de la courbe, mais c'est celui qui en a payé le prix politique le plus cher.
Cela dit, Jacky Isabello, projeter des lignes de fuite, comme il dit, au-delà d'un mandat, c'est du classique. Ah oui, c'est du pays qu'on parle, c'est pas du président lui-même.
C'est très classique. Et puis, l'effet recherché est aussi de vous mettre dans la situation de l'homme d'État, c'est-à-dire celui qui est dégagé des échéances électorales qui se mettent en 2022, 2020, 2021. Voilà. Vous parlez de la France, vous parlez de l'histoire de la France et aucune référence électorale, ça permet aussi ça.
Thomas ?
Ce que les Américains appellent la vision. C'est un truc très américain, ça, la présidentielle, il faut avoir une vision. Et la vision dépasse et de loin bien le sûr. Temps des élections, on même voit, si tout le monde y pense.
On voit plus loin que son propre mandat. Justement, un dernier mot là-dessus peut-être, Jacky Isabello. Quand il dit la prochaine présidentielle, je m'en fiche, c'est un moment qui est assez intense. Dans sa réponse, il y met beaucoup de solennité. Qu'en avez-vous pensé?
Alors là, j'ai trouvé ça génial. Je pense comme tout le monde, on s'est regardé à l'intérieur et on s'est dit non, il ne va pas nous faire une annonce là-dessus.
Mais oui, parce qu'il laisse des silences.
Exactement. Il l'a très bien géré. On ne va pas être hagiographique, mais surtout, quand il dit qu'il s'en fiche, rappelons-nous de ce qu'avait écrit Anne Fulda dans son bouquin. Elle nous avait dit, Emmanuel Macron, si ça ne marche pas, il est capable de prendre sa petite valise, elle ne l'avait pas dit comme ça, et de partir faire autre chose, claquer la porte. Donc, il y a de la cohérence par rapport à ce qui a été écrit sur lui.
Bien, merci beaucoup à tous les trois. Jacky Isabello de l'agence Coriolink, Simon Le Baron, service politique de France Info, et Thomas Negaroff, historien de la rédaction.